Venus d'Orient, nos histoires, nos vérités.
Bonjour et bienvenue dans Venus d'Orient, le podcast qui donne la parole aux voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Moi, je m'appelle Nawal Alamoussi, je suis journaliste pour Radio Orient et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir cette semaine Dorothée Myriam Kellouf. Dorothée Myriam Kellouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, réalisatrice et autrice. Vous êtes franco-algérienne et votre travail explore les liens entre la mémoire, la transmission et la responsabilité historique à travers le journalisme, mais aussi à travers le documentaire et la création sonore dernièrement. Votre travail, donc, il est traversé par l'histoire de votre famille et la mémoire de l'Algérie. Quand vous avez commencé à ressentir justement ce besoin de raconter cette vie et surtout de la rallier à la vôtre?
Alors, je pense que c'est arrivé assez tôt parce que donc, j'ai grandi en France, à Nancy, dans une famille donc, de père algérien, de mère française. Et très tôt, je me suis interrogée sur l'absence de transmission dans ma famille. Pourquoi mon père, algérien, exilé en France, ne parlait pas de son enfance en Algérie, de son adolescence, de ses jeunes années après l'indépendance? Pourquoi, en fait, il ne me parlait pas en kabyle, qui est sa langue maternelle, ou en arabe, la langue de son pays? J'avais beaucoup d'interrogations, en fait, beaucoup de questions qui m'ont accompagnée et qui ont peut-être favorisé une forme d'engagement très tôt, parce que à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'apprendre l'arabe, donc l'arabe littéraire, le fusha, et puis après, de faire mes études en sciences politiques et en arabe. À travers toute cette recherche d'abord de la langue, j'ai découvert des sujets d'histoire, de diplomatie, et je suis partie vivre en Égypte, par exemple, pour étudier l'arabe. Puis j'ai travaillé pour le Quai d'Orsay à Jérusalem, où je documentais la situation d'occupation militaire, de colonisation, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza. Et puis à ce moment-là, je pense que mon père a dû sentir que j'étais prête à recevoir son histoire. Et il m'a offert un projet de film qui s'appelle « Lettres à mes filles ». Lui est réalisateur de métier, mais il n'a pas tourné ce film. Il est resté à l'état de papier, de projet inachevé. Donc j'ai reçu ce projet, mais je l'ai rangé dans un tiroir. Je ne l'ai pas regardé réellement. Et il a fallu que je parte étudier aux États-Unis grâce à une bourse d'études pour que, en fait, je ressorte ce projet et que je le lise avec attention et que je découvre, en fait, l'histoire du village de mon père pendant la guerre d'indépendance en Algérie, l'histoire de millions de déplacés de force par l'armée française dans sa lutte contre le Front de Libération Nationale, et que je découvre, en fait, que son histoire, c'était aussi l'histoire de beaucoup d'autres et qu'il fallait la documenter, notamment du point de vue des colonisés, parce qu'il y avait assez peu de traces de cette histoire. On en trouve dans les archives de l'armée française, mais c'est du point de vue de l'armée. Mais finalement, la voix de ceux qui ont vécu cette histoire, qui ont été déplacés de force, regroupés dans des camps ou des villages qui ont servi de camps à l'armée française, finalement, elle est peu connue et peu racontée de ce point de vue.
Et justement, vous parlez souvent des zones de silence autour de la guerre d'Algérie. Dans votre propre parcours, quels silences vous ont marqué, notamment de la part de votre père?
Oui, il y a beaucoup de silence. Aujourd'hui, ce que je trouve admirable, c'est que finalement, tout ce travail qu'on a fait ensemble, parce que donc on est allé dans son village, lui, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné dans son village, à Mansoura, dans le sud de la Kabylie, il était retourné à Alger, à Tizi Ouzou, mais jamais dans son village d'origine. Et quelque part, aujourd'hui, en fait, il raconte. Il est capable de raconter son histoire. Il y a vraiment eu un travail pour créer un espace. Et mon film, À Mansoura, tu nous as séparés, a vraiment permis à mon père de s'exprimer, mais aussi aux villageois de s'exprimer. Et puis ensuite, ce podcast que j'ai fait au-delà du village, et ce film, et ce livre, et Nancy Kabylie chez Grasset. Voilà, il y a eu toute cette matière qui a pu émerger, mais au départ, qui vient d'un endroit de silence, un silence qui est aussi lié au traumatisme de la guerre, du déplacement forcé, de l'exil. Et puis, c'est difficile dans un contexte de migration de pouvoir trouver les espaces pour raconter son histoire. Je pense que notre génération, moi, je suis de la deuxième génération, la troisième, la quatrième, s'intéresse beaucoup à son histoire et est en train de créer tous ces liens, de tisser tous ces liens pour permettre à la parole d'émerger. Mais elle n'est pas si évidente au départ. Et surtout sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de crimes coloniaux, où finalement il y a un silence qui est aussi fabriqué, institutionnel, une sorte de malaise. Et le désir de regarder l'histoire en face, pour ma génération, il est très très fort et il pousse en fait à sortir du silence. Mais le silence, il est chez beaucoup d'Algériens qui ont vécu la colonisation et la guerre. D'Algériens et d'Algériennes, je parle au masculin parce que moi, mon père est algérien, donc j'ai plus l'expérience de ce silence, de cette pudeur aussi, dans un cadre familial, de ne pas vouloir aussi transmettre des traumatismes en racontant. Mais finalement, est-ce qu'on ne transmet pas aussi par le silence, par peut-être la mélancolie qui peut exister ? Le silence est aussi présent et raconte beaucoup.
Vous dites que vous êtes d'une génération qui interroge ouvertement sur la mémoire coloniale, ce que n'a pas pu faire aussi la génération d'avant, qui a dû se taire pour de multiples raisons. Comment est-ce que vous, vous vivez cet écart entre ces deux générations, entre celle qui parle, celle qui se tait, mais malgré elle, et est-ce qu'en tant que fille d'exilé algérien, vous avez cette responsabilité-là de parler ?
Mais je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait avant, heureusement, dont on hérite aussi et qu'il faut aller chercher, qui est parfois oublié. Et là, je citerai même le travail de mon père, qui est réalisateur. Et par exemple, grâce à Nabil Djedouani, qui a créé les archives du cinéma algérien, j'ai pu retrouver le premier film de mon père qu'il avait réalisé en Belgique, qui s'appelle « Vidange perdu », et qui raconte, ironie de l'histoire, le déplacement forcé d'un quartier gentrifié à Bruxelles. Et quelque part, il y a quelque chose qui est un peu transposé, c'est-à-dire que l'histoire de ces déplacements forcés en Algérie qu'il a vécu dans son village, finalement, se déplace et dans un autre cadre, celui de Bruxelles, d'une ville européenne, concerne la gentrification, mais c'est les mêmes mécanismes à l'œuvre de dépossession. En découvrant ce film, j'ai aussi découvert le travail de ses amis ou d'autres réalisateurs ou écrivains qui nous ont précédés. Et il y a un effort aussi de ma génération d'aller retrouver ceux qui ont travaillé avant, parce qu'on n'est pas comme ça du néant, en fait. Et il faut aller chercher ces archives qui sont parfois mal archivées, parce que l'ère du numérique est récente. Et ce film, aujourd'hui, est numérisé et accessible, mais il y en a d'autres que je n'ai pas retrouvées, que mon père a réalisées, par exemple. En fait, ils sont peut-être plus exprimés qu'on ne le croit, et qu'il faut aussi aller chercher à cet endroit-là. Bien sûr, après, je parle de mon père qui a eu la chance de faire des études intellectuelles, francophones. Mais finalement, la colonisation, c'est aussi l'histoire de l'appauvrissement, pas seulement matériel, mais aussi intellectuel. Finalement, très peu d'enfants musulmans français, comme on les appelait à l'époque, ont eu accès à l'école. Et donc, il y a beaucoup d'analphabétisme à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ça pèse aussi dans la transmission, c'est-à-dire que les traces écrites sont importantes, elles sont valorisées, la transmission orale l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se raconte dans les familles ? Qu'est-ce qui perdure ? Qu'est-ce qui subsiste ? Et tout ça, c'est, je dirais, le travail de notre génération, d'aller voir les anciens, ceux qui ne sont pas encore décédés, pour créer une histoire orale enrichie de tous ces récits qu'on peut aller glaner à droite, à gauche. Mais voilà, c'est un gros travail qui demande des moyens. Et les moyens, malheureusement, nous manquent. Mais voilà, je pense qu'on est nombreux à aller arracher cette parole qui est importante.
Et d'un point de vue personnel, donc vous êtes allé en Algérie, notamment pour réaliser donc ce documentaire avec votre père. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Quel était votre ressenti en se reconnectant à la terre de votre père ?
J'ai pas forcément pu l'évoquer dans mon film, À mon soir, tu nous as séparés, parce qu'il était vraiment focalisé sur l'histoire de ces déplacements forcés, d'aller chercher cette mémoire intime des déplacements et ce bouleversement profond de l'Algérie rurale. Mais j'ai écrit ce livre, Nancy Kabylie, et où je raconte en fait toute l'histoire de cette quête et ce que ça a bouleversé en fait pour moi. En premier lieu, je pense que de pouvoir inscrire l'histoire de ses ancêtres, déjà sur papier, mais aussi en soi, c'est vraiment un travail d'ancrage qui est très, très important parce que je pense que, en tout cas, le sentiment que j'avais avant de faire tout ce travail, c'était un sentiment de flottement. C'est-à-dire de ne pas savoir bien à quoi j'appartiens, à quelle histoire, plutôt avoir la sensation d'un vide lié donc à l'effacement de l'histoire, de la mémoire, qui est aussi un processus colonial, de destruction. Et donc, de pouvoir reconstituer son histoire, c'est se réancrer dans une filiation, dans une généalogie qui est la sienne. Et ça permet de sortir des fantasmes, des clichés auxquels on peut parfois se raccrocher pour se fabriquer une histoire, ce qui est nécessaire et ce dont on a tous besoin.
Et pour vous, le retour en Algérie, c'était une découverte ?
Alors, bah, j'avais déjà été en Algérie à l'âge de 18 ans. J'étais partie avec mon père, mais on n'avait pas été dans son village. C'était après les années 90. En fait, je pense que ce qui a été très, très, très bouleversant pour moi en allant dans le village de mon père, c'est de me rendre compte que même s'il n'y était pas retourné depuis 50 ans, c'est quand même une vie d'homme, quoi, 50 ans. En fait, tout le monde savait qui il était, se souvenait de lui et savait que c'était le fils du village, quoi, qu'il avait fait ses études en Europe, qu'il avait fait des études de cinéma, qu'il avait réalisé des films. Donc, il y avait toute une mythologie autour de mon père sur place. Et les plus anciens se souvenaient tous de lui, enfant, et donc ont ouvert leurs portes. Ils avaient connu ma grand-mère, mon grand-père. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est à la fois de l'ordre de l'appartenance et en même temps du décalage, parce que moi, j'ai étudié l'arabe en Égypte, en Palestine. Et donc, finalement, j'arrive avec cet arabe plutôt du Moyen-Orient en Algérie. Donc, ça les a fait sourire, en fait, parce que j'étais clairement attachée à cette langue, à ce lieu, et en même temps incapable de parler à la fois le kabyle, qui est la langue du village historiquement, même si cette langue a été bouleversée par les déplacements, et puis incapable de parler vraiment l'algérien, même si j'essayais de capter des mots ici ou là. Je me souviens que je confondais par exemple El Jeish et El Askar. El Jeish, c'est l'armée de libération nationale, et El Askar, c'est l'armée française. Et on voit la différence de taille, en fait, dans les mots utilisés. Donc, au départ, je confondais, quoi. J'utilisais l'un à la place de l'autre, parce que pour moi, c'est le même vocabulaire militaire. Mais en fait, non. Donc, il y a eu plein de moments assez drôles, parce qu'ils étaient quand même attendris. Ils voyaient bien l'effort que je faisais pour essayer d'entendre leur histoire, restituer leur histoire. Et ce rapprochement-là, il est vraiment célébré, quoi. Il y a toujours un peu ce sourire en arrière-plan parce que, bah, évidemment, ça fait sourire.
Comment la relation avec votre père a évolué suite à la réalisation de ce documentaire où il s'est aussi livré sur lui et sur ce qu'il a pu vivre dans le passé ?
Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux mon père qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais vraiment accès à des bribes. Aujourd'hui, je peux parler d'égal à égal avec lui. On est deux adultes, même s'il y a la relation filiale, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir rencontré l'homme aussi, traversé par l'histoire. Et ça, je trouve que c'est très beau, en fait, et que c'est nécessaire pour ensuite pouvoir soit transmettre à sa descendance, à ses enfants, etc.
Dorothée Myriam, vous êtes franco-algérienne. Comment est-ce que vous la vivez, vous, cette double appartenance ? Est-ce que vous la subissez comme un peu un tiraillement ou au contraire, vous en faites une richesse ?
C'est quelque chose que j'ai développé dans mon livre Nancy Kabylie. C'est l'idée du trait d'union que j'ai rencontré aux États-Unis pendant mes études et l'idée que, en fait, là-bas, c'est très courant de se présenter comme Lebanese American. Le trait d'union, en fait, il est intégré, en fait. Et moi, ça m'a plu parce que en France, on va dire qu'on est franco-algérien, on nous demande, l'injonction, c'est d'abord d'être français et puis éventuellement, il y a cet héritage algérien, mais qu'il vaut mieux laisser un peu dans l'ombre. Et moi, j'aimais bien mettre à égalité ces deux histoires, ces deux héritages, même si historiquement, elles n'ont pas été à égalité. Il y a une situation de domination dans l'histoire coloniale de la France sur l'Algérie. Mais de réimaginer une manière, donc plutôt que le trait d'union, je me suis dit, en fait, le trait d'union, symboliquement, c'est aussi la soustraction. Quand on dit « je suis française-algérienne », on peut lire « française moins algérienne ». Et donc, j'ai imaginé ce que j'écris dans mon livre, l'astérix. Donc, du coup, ça devient une multiplication française multipliée par algérienne. Effectivement, il y a l'idée d'enrichissement, parce que moi, je le vois comme ça, même si le point de départ, c'est surtout l'impression d'une soustraction. L'idée, c'est de tendre vers la multiplication, de se défaire de ce signe de la soustraction.
Quand on grandit avec un héritage comme le vôtre, qui est marqué par l'exil, mais aussi la guerre, et donc la douleur qu'on n'a pas vécue soi-même. Comment est-ce que vous avez justement appris à transformer tout ça en force de création ?
C'est une question difficile. Je ne sais pas, en fait. Je pense que ça fait partie de soi, de peut-être d'aimer créer, d'aimer... J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé poser des questions. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi de se connecter à ces forces-là en soi et de se dire, avec tous les outils, d'avoir fait des études, d'avoir voyagé, d'avoir trouvé une certaine distance pour travailler cette histoire, évidemment, d'être accompagné aussi psychologiquement parce que je pense que c'est pas anodin d'aller chercher une histoire qui est traumatique. Et je pense qu'il faut pas rougir de dire que un accompagnement thérapeutique peut être nécessaire parce que il y a des récits que moi j'ai entendus qui m'ont clairement traumatisée. La statue du sergent Blandan, qui est le fantôme de mon père, cette statue qui était à Boufarik et qui a été rapatriée en France à Nancy, que mon père a retrouvée par hasard dans la ville où il s'est installé. Et en fait, on est aussi hanté par des fantômes. Et ces fantômes, c'est des vrais fantômes, ils sont terrifiants. Et moi, je sais que par moments, j'étais là, mais je ne pourrais pas affronter ces fantômes-là. Ils me font peur, ils me font peur. Et je me souviens d'un fantôme que j'avais rencontré dans un rêve, qui est donc le capitaine Grousseau, qui s'occupait de l'administration du village de mon père pendant la guerre. Et en fait, j'ai découvert l'histoire d'un massacre qu'il a ordonné de populations déplacées. Et j'ai documenté ce massacre. Et la nuit, il me rend des visites en me disant, alors comme ça, tu veux raconter la vérité sur cette histoire ? Et il était vraiment à côté de moi. Et effectivement, ça fait partie de cet inconscient qui nous travaille et qu'il faut affronter. Et c'est seulement quand j'ai raconté cette histoire, que je l'ai écrite, que je l'ai narrée dans mes podcasts, qu'il est parti. Et en même temps, il faut du courage parce que s'ils ont terrifié nos aînés, ils peuvent nous terrifier aussi. Parce que c'est l'histoire de la violence. Donc la violence, elle a aussi pour objet de... Elle a une utilité, c'est la terreur. Et la terreur, elle ne se dissipe pas en une génération. Elle peut continuer à s'infiltrer. C'est un gros travail de chasser les fantômes.
Et aujourd'hui, on sait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont très tendues. Comment est-ce que vous le vivez ? Comment est-ce que vous voyez la chose ?
Moi, je pense qu'en tout cas, tout ce travail que j'ai fait jusqu'à ce contre-monument qu'on vient d'inaugurer à Nancy, avec le maire de Nancy, donc Mathieu Klein, avec la présidente du conseil départemental, Shaïnès Rerouni, qui est aussi d'une famille algérienne, avec ses historiens, avec ses artistes, inscrire une contre-histoire dans l'espace public, d'avoir ce miroir anticolonial dressé qui fait la taille réelle du sergent Blandan, donc 1m59. Tout ça, pour moi, c'est une inscription positive. Ça me permet un peu de me détacher de cette actualité qui est faite de crises récurrentes et de me dire, mais en fait, il y a toutes ces forces vives réellement qui sont dans un désir de raconter, de construire, de déconstruire. C'est ce que j'investis en fait en termes d'énergie parce que passer de polémique en polémique, il y a quelque chose d'épuisant. Et je pense que c'est aussi le piège médiatique actuel, quoi. C'est de ne lire l'actualité qu'à travers la crise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller voir ce qu'on arrive à construire en dehors de ces soubresauts et ce qui est finalement dans la continuité parce que aujourd'hui je travaille avec le musée des Beaux-Arts de Nancy, avec la ville de Nancy, avec des historiens, mon père réalise à nouveau un film, voilà, tout ça c'est de l'énergie en fait déployée loin de l'arène médiatique politique, quelque part du ring quoi. Il se passe plein d'autres choses dans les coulisses et c'est là aussi que j'ai envie d'aller voir, quoi.
Donc à travers vos créations, que ce soit à travers le documentaire, la création sonore, vos livres, vous construisez une mémoire. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent ?
Qu'elle n'est pas figée, premièrement. Qu'en fait, la mémoire, elle est en mouvement et elle se réécrit sans cesse. Et l'idée, c'est que la mémoire n'enferme pas. En fait, c'est aussi un piège de penser la mémoire de cette manière, parce que finalement, une mémoire traumatisante, elle a tendance à figer l'individu dans le trauma. Et l'idée, c'est de recréer du mouvement, de recréer de la liberté. En fait, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est que c'est traverser ces histoires pour être libre, libérée autant que possible. Parce que je ne pense pas que ma grand-mère, par exemple, Mibarka, paix à son âme, aurait désiré que je sois enfermée dans son traumatisme. Si elle s'est battue, c'est pour être libre et pour que les générations suivantes soient libres. Et parfois, d'être collée à l'événement traumatique et à la mémoire violente, ça nous empêche d'être libre aujourd'hui. Donc, je crois que c'est le plus bel hommage, c'est d'essayer de trouver un moyen d'être libre aujourd'hui avec toute cette force qu'ils nous ont léguée, qui est aussi cette force de la lutte, du combat, et la connaissance en fait partie.
On est une génération aussi où beaucoup d'enfants de la diaspora essayent justement de se ressourcer, donc de retourner dans le pays d'origine. Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer ?
Moi, je pense que c'est un besoin d'ancrage, c'est un besoin de connaître sa filiation, son histoire. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, en fait. C'est vraiment important parce que d'être coupé, c'est une violence. Ça peut être aussi un choix, mais de pouvoir aller chercher l'enrichissement et trouver sa place plus justement en France, je pense que sans cet héritage, il est plus difficile de s'ancrer en France que avec cet héritage. En tout cas, moi, je me sens beaucoup plus à ma place en France depuis que je connais cette histoire qu'avant, où j'avais tendance à dire « Ah non, mais je suis algérienne. » Ben, en fait, en premier lieu, je suis française. Enfin, j'ai grandi en France, mes références sont très françaises, j'ai cette langue française. Donc, c'est compliqué, en fait, de ne pas connaître son histoire. Parce que, en fait, on est renvoyé toujours à un pays, finalement, qu'on ne connaît pas bien. Et je pense que pour s'ancrer en France et pour trouver sa place en France et défendre sa place en France, il est important de savoir, justement, son histoire et la maîtriser pour pouvoir la transmettre.
Et merci à Dorothée Myriam Kellou de nous avoir répondu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Venue d'Orient.
Venue d'Orient, nos histoires, nos vérités.